Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Heureux de vous accueillir. Et j'aimerais partager justement ce que le Seigneur a mis sur mon cœur également. Eh bien, cette marche à la suite du Seigneur, mais d'une manière pratique. Parce qu'il y a bien des choses qu'on connaît, mais pour qu'elles soient véritablement validées, il faut que ce soit pratique. Et un chrétien est un homme pratique. On est d'accord? Alors, on va regarder ça ensemble. Dans l'Épître aux Colossiens, s'il vous plaît, on va faire une lecture. Chapitre 4. Et nous allons lire à partir du verset 2, jusqu'à la fin, finalement. Persévérez dans la prière, nous dit Paul, persévérez dans la prière et veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Tichite, le frère bien-aimé et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation. Pour qu'il console vos cœurs, je l'envoie avec Onésime, le frère fidèle et bien-aimé, qui est des nôtres ou des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu et qui ont été pour moi une consolation. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hierapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphéa, et l'église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens, et que vous lisiez à votre tour celle qui arrivera de Laodicée. Et dites à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens, que la grâce soit avec vous. Voilà, que Dieu nous bénisse à travers sa parole. Alors, j'aimerais apporter un texte, une réflexion sur plaidoyer pour l'unité. Parce que je pense que rien de concret, rien de durable, rien de valable ne peut se faire en dehors de l'unité. J'ai toujours eu à cœur dans l'exercice du ministère que Dieu m'a confié au moins trois points. L'unité dans l'Église, la paix dans l'Église et l'équilibre. C'est pas grand-chose, mais pour moi c'est tout. C'est l'essentiel. Alors, nous allons finalement à travers une première partie, parce que nous nous reverrons, j'espère. Il y a tant de choses à dire sur un texte comme ça. Alors, j'espère que nous aurons là l'occasion de voir une seconde partie. Mais notre méditation ce matin s'ouvre sur deux grandes activités de la vie chrétienne, la prière et le témoignage, qui s'expriment ainsi, et l'apôtre quand il écrit ses notes, il dit « persévérez dans la prière et ensuite conduisez-vous ». Vous avez bien compris, il s'agit de la prière et du témoignage par la conduite que nous devons avoir en tant que chrétiens. Le fait que la plus grande partie de notre vie se passe dans la famille et ensuite au travail, parce que je suppose que c'est à peu près comme ça que ça se passe pour tout le monde, Hein? On a une partie de notre vie dans la famille, parce que si vous remarquez, quand vous lisez précédemment, il est question, finalement, des relations familiales un petit peu plus avant. Alors, notre vie se partage, entre autres, dans ces activités, la famille et le travail. On s'aperçoit à ce moment-là que la prière et le témoignage constituent notre premier champ missionnaire. Et s'il y a quelque chose à faire, c'est d'abord de rendre témoignage à notre propre famille, et ensuite notre vie sociale, là où elle nous conduit, c'est-à-dire vie professionnelle, là auprès d'hommes, de femmes, qui sont associés à nous parce que la nécessité finalement de la vie fait ainsi. Donc c'est la première démarche, c'est notre premier champ missionnaire. Vous savez que la prière nous pousse au témoignage pour une raison bien simple, parce que rencontrer Dieu entraîne à la rencontre des hommes. Nous ne sommes pas des chrétiens éthérés dans une bulle, entre le ciel et la terre, à flotter dans les nuages, mais nous sommes des hommes, si nous avons le cœur au ciel, les pieds réellement sur terre. Parce que le Seigneur, s'il nous maintient ici, c'est que nous avons à y faire quelque chose. Et quelque chose de concret. Alors, je répète que la prière nous pousse finalement au témoignage, car rencontrer Dieu entraîne à la rencontre des hommes. Et de cause à effet, le témoignage nous ramène toujours à la prière par la conscience que nous avons de la faiblesse de nos paroles. Et tout le monde l'a éprouvé. Lorsque nous avons prié pour rendre témoignage ou pour être un bon témoin de Jésus-Christ et pas de Jéhovah, je tiens à le préciser au passage. Mais toujours est-il qu'à ce moment-là, nous avons toujours ce sentiment au fond de nous-mêmes, est-ce que nous avons bien dit? Est-ce que nous avons bien fait? Et après avoir rendu témoignage, nous revenons vers le Seigneur en disant béni. Dans ma faiblesse, dans mes imperfections, dans toutes mes incapacités, parfois mes inadvertances, Seigneur, continue à bénir, s'il te plaît. Donc, nous partons d'un endroit, nous allons vers le ciel, nous portons vers le ciel notre requête, nous nous tournons vers les hommes, et une fois que nous nous sommes tournés vers les hommes, nous nous retournons vers Dieu pour qu'il bénisse. C'est un petit peu le cycle que nous pouvons nous imaginer. Dans le verset 2, il est dit ceci, « Persévérez dans la prière et veillez-y avec action de grâce. » De cette courte exhortation se dégagent trois caractéristiques qui sont faciles à deviner. La constance, persévérer. La conscience, veiller. Et ensuite, la reconnaissance avec des actions de grâce. C'est simple à comprendre. À travers trois mots, nous avons finalement tout le déploiement de notre activité de chrétien. Alors on va commencer par la première chose qui est la persévérance. Qu'est-ce que veut dire la persévérance et persévérer? La persévérance ne consiste pas à réclamer à Dieu la même chose jusqu'à l'exaucement, et je tiens à l'affirmer, contrairement peut-être aux idées reçues. Quand je vais dire la suite, vous allez comprendre. Parce qu'à ce moment-là, nous pouvons tomber dans le contraire de ce que la parole de Dieu nous enseigne, ne multipliez pas de vaines redites. Parce que certains s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. Donc on est bien d'accord là-dessus. C'est pas dans la forme, mais c'est dans l'esprit. Et ça, c'est important. Donc la persévérance ne consiste pas à réclamer les sempiternelles choses à Dieu en disant « je vais faire du forcing » et « ah, parce que j'aurai fait du forcing, il va finir par m'exaucer ». Ça, c'est une démarche toute humaine, mais qui n'a rien de spirituel. Mais la persévérance, je dirais, c'est à faire de la prière un réflexe naturel, une attitude permanente, une habitude de vie. Et c'est là où je comprends mieux ce que c'est que persévérer. Et ce qui doit être la caractéristique de tout enfant de Dieu né de nouveau, où là, nous avons ce besoin impérieux de prier tous les jours, sans nous forcer, avec bonheur, avec joie, avec plaisir. Et non peut-être pas comme on nous l'a enseigné religieusement, et même de nous présenter la prière comme une punition. Ça vous rappelle peut-être des souvenirs. Mais toujours est-il que c'est une autre démarche. Ce n'est plus une démarche d'obligation, c'est une démarche d'amour à ce moment-là. Et c'est facile de persévérer quand on aime, parce que on n'éprouve pas finalement, de difficultés. Donc je rappelle que c'est faire de la prière un réflexe, une attitude et une habitude de vie. Alors à cette condition, c'est comme la respiration pour notre survie. Je pense que vous ne réfléchissez pas pour respirer. Ça se fait naturellement et ça se fait depuis longtemps, hein, pour certains. Est-ce que je respire ? Je me pose jamais la question. Je respire, tout simplement. Alors les formes de prière sont tout à fait diverses. Si nous nous imaginons que prier, c'est se mettre sur une chaise basse et puis se mettre à genoux, etc., il y a toute une gestuelle religieuse. Non, prier, je peux prier ici, je peux prier en dehors, je peux prier à mon travail, je peux prier en conduisant ma voiture, je peux prier partout. Ma pensée s'élève vers le Seigneur. C'est pas beau ça ? Ouais, c'est vrai, mais c'est comme ça, ça devient quelque chose de naturel. Et sans culpabilité aucune. La prière devient à ce moment-là le canal de la vie divine qui se répand dans notre âme et notre esprit, qui l'alimente et qui nous vivifie. Parce combien de fois avons-nous fait l'expérience en nous tournant vers le Seigneur et dans nos rencontres que l'on appelle des réunions de prière, telles que le mercredi ici à Saint-Nazaire, eh bien de venir harassé, fatigué, accablé, découragé peut-être après une journée difficile, de venir peut-être en nous traînant et de repartir dans la joie parce que nous avons été vivifiés, de nous tourner vers le Seigneur tous ensemble et de repartir avec un dynamisme nouveau. C'est pas vrai ça ? Eh oui, hein ? Vous avez fait l'expérience. C'est extraordinaire, hein, la prière. C'est véritablement ce qui nous redonne le souffle de la vie. Mais attention, ce que veut nous laisser entendre l'apôtre Paul, c'est que la meilleure des habitudes comporte un risque. Un risque de devenir mécanique, de devenir formaliste, avoir une démarche finalement qui n'est plus tant spirituelle, davantage religieuse, où là, eh bien, notre démarche devient une démarche sans âme. Nous faisons les choses parce qu'il faut les faire. Nous faisons les choses parce qu'on nous a dit de les faire. Nous faisons les choses parce que nous sommes quelquefois, eh bien là, sous le coup d'un jugement. Je ne sais pas d'où il vient ce jugement, et de dire, eh bien, si je ne le fais pas, je suis perdu, ou je suis condamné, ou on va me juger. Non, c'est une autre démarche. Alors à ce moment-là, il ne faut pas que ça soit naturellement, eh bien, sans âme. Et tout à l'heure, il me semble que quand nous avons, je vous ai entendu chanter, j'ai chanté avec vous, il me semblait que vous avez chanté de tout votre cœur. Oui ? Ah oui, oui, non, mais, enfin, bon, j'ai cru le comprendre, dans tous les cas. On a chanté avec joie, on a chanté parce qu'on aime le Seigneur, on a chanté parce que la présence du Seigneur est là. Hein. Alors, notre démarche ou nos prières ne doit pas être un assemblage de mots, une succession de phrases vides. Et Paul, en conséquence de quoi, dit « Veillez-y ». Persévérez, mais attendez, veillez aussi. Veillez-y, c'est-à-dire restez en éveil. Oh, il y a tant d'hommes et de femmes dans les églises qui sont somnolents, qui se sont assoupis depuis longtemps. Des pasteurs aussi. Hein. Enfin, j'espère que je ne vais pas dormir. Hein. Ça ferait très mauvais effet. Mais toujours est-il que, finalement, eh bien, les choses sont rentrées dans une façon de faire, une certaine routine. Alors, l'apôtre Paul dira, mais veillez-y. Vous savez, c'est comme le feu dans une cheminée, vous pouvez y mettre les plus belles bûches et vous allumez le feu, ça va faire une belle lumière, une belle chaleur. Mais si vous n'apportez pas un rajout, si vous n'alimentez pas, eh bien à un moment donné, vous allez voir, ça va se terminer par une petite flamèche qui va s'éteindre et ça finira en cendres. Eh bien c'est ça la vie. Et je dirais que la vie spirituelle, elle est ainsi, elle est comme cela. Alors restez en éveil de ce que vous dites et de ce que vous faites, soyez conscients. Parce que si le cœur n'y est plus, alors ce sont tout simplement de vaines redites ou des prières mortes qui n'expriment plus à ce moment-là la communion, mais son contraire, l'absence de communion avec Dieu. On est peut-être virtuellement en communion ou physiquement en communion avec les hommes, mais on n'est plus en communion avec le Seigneur. C'est pour ça que c'est extraordinaire quand même de pouvoir vivre sous le souffle de la Pentecôte, parce qu'il y a la vie. Ah oui. Et ça, faut le garder, frères et sœurs. C'est important parce qu'autrement, on va devenir... on aura de beaux monuments, mais l'esprit aura complètement disparu. Et le principal, c'est pas le monument. Hein. C'est pas le lieu qui nous rassemble. C'est le Seigneur qui est au milieu de nous. Et ça, c'est quelque chose. Troisième aspect, puisque nous avons parlé donc de la constance persévérée, nous avons parlé de la conscience veillée, et maintenant, il s'agit de la reconnaissance. Troisième aspect... la reconnaissance qui fait que tous les événements de notre vie, alors quand je dis tout, tout, hein, les bons, les mauvais, ceux qui nous plaisent et ceux qui nous plaisent pas, parce qu'il y en a des choses dans la vie, hein, que ce soit les événements heureux ou les événements malheureux, que ce soit les petits ou les grands événements, chaque fait porté dans la prière trouve leur signification devant Dieu. Et il n'y a rien qui n'arrive, qu'il n'ait un sens pour nous, pour notre vie, pour nous rapprocher de Dieu, pour tout simplement lui dire merci. Et tout cela doit se transformer, frères et sœurs, en reconnaissance. Je l'ai dit et je le répète, la reconnaissance, c'est la mémoire du cœur. Ouais. C'est important de pouvoir se souvenir de tant de choses de notre vie. Il y a des choses très anciennes que nous nous souvenons comme si c'était hier, n'est-ce pas? Et puis, ne serait-ce qu'en comptant les derniers jours qui se sont écoulés dans cette semaine qui a passé, est-ce que nous n'avons pas vu Dieu à l'œuvre dans notre vie? Est-ce que nous n'avons pas prié et il nous a exaucés? Est-ce que nous n'avons pas, eh bien là, ressenti ce besoin de nous approcher de lui et nous avons senti en retour sa présence? Est-ce que nous n'avons pas fait des choses extraordinaires ou vu des choses extraordinaires? Parce qu'il y a tout, hein. Mais ça doit être transformé en sujet de gratitude. Et c'est pour ça que nous avons un culte le dimanche matin. Alors le culte, il est fait pour que nous puissions nous retrouver ensemble dans la joie. Et comme nous l'avons partagé tout à l'heure, et nous le repartagerons tout à l'heure également, eh bien de dire merci Seigneur. Vous savez qu'il y a une chose qui plaît à Dieu, c'est quand on lui dit merci, quand on est reconnaissant. Nous avons les uns et les autres vraisemblablement des enfants. Et on aime bien quand les enfants, on leur donne quelque chose, ils nous disent merci. D'ailleurs, on ne les lâche pas avant que... Enfin, je ne sais pas comment. Voilà. Donc, ça doit devenir une habitude de vie. Et puis l'apôtre Paul poursuit, il dira ceci, mais priant tout temps pour nous. Alors ça, c'est un sujet auquel on ne penserait pas, parce que on se dit, Paul est un géant. Alors c'est vrai que c'est un monument à la fois de théologie et puis d'expérience et de communion avec Dieu. Parce qu'on se dit, Paul, c'est celui qui donne toujours. Il a toujours quelque chose à dire, il a toujours quelque chose à donner. Et puis, il a des réserves, parce qu'il est pasteur. Et puis encore, il n'en a pas besoin. Alors moi, je voudrais me mettre un petit peu à la place de Paul et vous dire la même chose. Frères et sœurs, j'ai besoin de vos prières. Et je vous remercie parce que vous le faites. Mais je vous demanderai de continuer. Parce que vous savez que c'est pas toujours facile d'être au service dans l'œuvre de Dieu, et c'est pas toujours facile d'avoir une responsabilité spirituelle. Et moi, j'ai besoin de vos prières. Et Paul avait aussi besoin de la prière des églises. Et pourtant, on pourrait dire, un homme comme lui peut se passer, non. Moi, j'ai besoin du Seigneur, mais j'ai besoin de vous. J'ai besoin beaucoup de vous. Et il le dira dans la conscience de ce qu'il est. Pourtant, tout conducteur spirituel éprouve peut-être plus que les autres, parce que si vous êtes attaqué, je peux vous dire qu'on a notre part aussi, hein. Tant sur le plan de notre santé, sur le plan moral, sur le plan psychologique aussi, il y a des choses qui, quelquefois, eh bien, sont tellement de mauvaises nouvelles que, on ne reste pas insensible, naturellement, hein. Alors, quand il vous arrive de bonnes choses, c'est formidable parce qu'on se réjouit, hein. Mais il n'y a pas que ça, hein. Et vous savez, il y en a beaucoup plus des mauvaises que des nouvelles, hein, quand on est dans cette situation. Alors, le besoin d'être renouvelé, le besoin d'être visité, d'être tonifié par le fait, hein, que nous devons restituer ce que Dieu nous a donné. Et ça, c'est pas toujours simple. Et tout prédicateur, à quelque niveau que ce soit, se pose toujours la question de savoir ce qu'il va dire à la prochaine réunion. Je dis à mon épouse, le dimanche soir, qu'est-ce que je vais dire dimanche prochain? Alors elle me rassure à chaque fois. Oh, tu vas bien trouver. Ben, vous connaissez. Oui, mais c'est vrai que c'est toujours un souci et nous avons besoin que vous priez pour nous. Parce que tant qu'on n'a pas trouvé, c'est pas facile. Et puis, il y a cette parole qui me rassure à chaque fois. Et ça, c'est une parole depuis que je prêche. Je m'en suis toujours souvenu et elle me fortifie. Parce que il est dit ceci dans la Bible, Dieu est celui qui donne la semence à celui qui sème, et il donne le pain à celui qui mange. Alors je m'en souviens à chaque fois, je me dis, ils ont faim. Alors donne-moi le pain, et faut que j'ensemence un champ. Alors donne-moi la semence. Alors à chaque fois, je suis toujours réjoui, je dis, Seigneur, tu vas pas me laisser tomber. mais quand même, priez pour moi. Je dis ça amicalement, gentiment, avec, hein, vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais priez pour nous, priez pour les frères anciens aussi. Parce qu'en plus, ils travaillent, ils sont investis dans une mission. Ils ont là, eh bien, ils ont leurs soucis aussi, les soucis de famille, les soucis de la vie professionnelle. Et quelquefois, je leur demande, je leur dis, ben, dimanche, c'est à toi. Alors, ben, c'est vrai qu'on peut comprendre. Moi, je l'ai fait pendant des années, 16 ans, ça. Ben, vous savez que c'est pas facile de faire les deux. Alors, Paul avait raison, priez en même temps pour moi, priez pour nous. Parce que nous sommes exposés, comme vous-même, à l'habitude, à la lassitude, à l'engourdissement, parfois au découragement, et toutes sortes, j'espère que je ne vais pas vous choquer, mais toutes sortes de tentations, comme le reste des hommes. Vous n'étiez pas imaginé que nous étions des anges. Pour l'instant, ça pas, j'ai pas de plume. Hein? Et le plus haut que je puisse m'élever, c'est sur l'estrade, c'est tout. Alors, je vous dis ça pour que, comme dit Paul, vous ne nous considériez pas au-dessus de ce que nous sommes. Et avant tout, nous sommes des serviteurs des autres et pas des princes. Ça, c'est important de le dire. Et j'ai besoin que vous priez pour moi. Et combien de fois que je vous l'ai dit, là? Deux autres sujets d'intercession qui viennent dans notre texte. Ce sont les messagers dont nous avons parlé un petit peu, mais aussi le message. Et Paul dit « Priez pour moi afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. » Alors là, on comprend qu'il avait besoin parce que là, dans cette situation, il se trouvait en prison, ce que je ne suis pas, hein, grâce à Dieu. Et dans ce temps-là, on allait souvent en prison pour fait de religion ou de tout simplement de foi. L'essentiel pour Paul n'est pas que la porte de sa prison s'ouvre, mais que là où il est, dans sa situation même de captif, l'évangile soit annoncé. Et il avait vu juste Paul, parce qu'il se dit « si je suis dans une geôle, eh bien c'est que j'y suis », c'est pas qu'il avait envie d'y rester, mais il n'était pas focalisé 24 heures sur 24 pour voir si la porte allait s'ouvrir. Il se disait, je suis là, Dieu m'en fera sortir, parce que là c'est pas un problème pour le Seigneur hein, d'ouvrir les portes. Vous vous souvenez de l'histoire de Pierre, quand il est sorti comme ça allègrement, au nez et à la barbe des soldats, ils n'ont rien vu du tout. Non, le problème de Paul, c'est que, Seigneur, je suis là dans cette situation, mais dans cette situation-là, même si la porte reste fermée, donne-moi d'être un rayonnement dans ce lieu ténébreux, dans ce lieu rébarbatif que peut être une prison, et que je puisse finalement, eh bien, y être un témoin, y être un ambassadeur. C'est ça le plus important. Alors, mes frères et mes sœurs, je pense que vous avez compris que quelquefois, lorsque vous êtes dans vos prisons, pas avec des barreaux et des portes de fer, parce que nous avons tous des prisons, ce peut être la maladie, ce peut être des ennuis d'une façon ou d'une autre, ne focalisez pas sur la porte, si elle s'ouvre, oui ou non, mais posez-vous plutôt la question si la porte des cœurs de ceux qui sont autour de vous est ouverte. Parce que vous savez, on peut parler en théorie, mais il y a quelque chose de plus fort que la théorie, c'est quand nous vivons des choses difficiles et que nous restons dans la paix, que nous restons dynamiques, que nous restons positifs et qu'à ce moment-là nous encourageons les autres alors que nous-mêmes, quelquefois, nous sommes dans les liens. Et ça, c'est un témoignage, je vous dis, mais qui parle mieux qu'autre chose. Les gens n'ont pas besoin de théologie, ils n'ont pas besoin d'entendre des grands discours, des grands sermons. Ils en ont par-dessus la tête, ils en entendent tous les jours. Ils ont besoin de voir des hommes et des femmes qui vivent leur foi, dans la joie et dans la paix, avec ce dynamisme et cette communication de vie. Et ça, c'est quelque chose, me semble-t-il. Oui, c'est surtout la porte des cœurs et des circonstances. Et ça, c'était le meilleur pour Paul, le meilleur parti qui intéressait Paul. Et il va en arriver dans sa situation à s'oublier lui-même pour donner la priorité à son message et d'éventuels auditeurs, fût-il geôlier ou prisonnier comme lui. Et ça, ce sont des choses que nous n'allons pas aller chercher, mais que les circonstances, eh bien, nous conduisent, les portes qui s'ouvrent, ne sont pas toujours celles auxquelles nous avons pensé, que nous avons rêvé et désiré. Mais ce qui est le plus important, c'est celles qui sont connues de Dieu et dans lesquelles il veut nous faire rentrer pour que nous ayons un témoignage qui puisse porter du fruit. Oui, Seigneur, toi tu sais. Et parfois, Dieu nous a fait avancer dans des chemins que nous regardions peut-être un petit peu de côté parce que nous ne voulions pas les regarder en face, tellement ça nous effrayait ou ça nous suscitait des craintes et des peurs. Et pourtant, le Seigneur nous a dit, vas-y, tu y vas quand même, tu y vas pas tout seul, je suis avec toi. Et là, nous avons été émerveillés de voir que où nous avions des appréhensions, Dieu nous avait ouvert les portes. Et nous avons pu dire des choses, vivre des choses. Nous avons été jusqu'à des gens qui étaient profondément enfouis dans leur misère, que nous n'aurions pas vu parce qu'ils étaient submergés dans la boue. Et Dieu nous a dit, tu leur tends la main. Et puis tu vas les aider à se relever. Oui, ce sont aussi des prisons, tout ça. Ainsi, la prière mène tout naturellement vers le témoignage que nous relisons. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps, que votre parole soit toujours assaisonnée de grâce. Accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. La prière qui nous conduit au témoignage. Prier Dieu, c'est parler de Dieu aux hommes. Parler de Dieu aux hommes. Nous avons demandé à Dieu, nous avons parlé au Seigneur, mais le Seigneur va nous dire maintenant tu vas parler à tes semblables. Parce qu'il nous a donné une faculté qu'on appelle la parole. Avec notre parole, nous pouvons faire du mal, c'est vrai, mais nous ne voulons pas. Mais avec notre parole, nous pouvons faire du bien, et beaucoup de bien lorsque nous y mettons le Seigneur. Parce que c'est lui qui bénit. La prière n'isole pas, parce que ce serait un faux problème, ce serait une fausse conception, la parole ne doit pas nous isoler. Certains se sont isolés pour prier. Ils se sont mis dans une tour d'ivoire en disant « Moi maintenant, je flotte entre le ciel et la terre et peu importe ce qui arrive autour de moi. » Ça c'est faux, mes frères et sœurs. Il faut réviser notre position. La prière n'est pas un isoloir. Elle envoie le chrétien vers. Et le Seigneur va nous le montrer qu'il nous envoie vers. Même si nous devons un temps rentrer dans notre chambre, fermer notre porte, nous devons sortir de notre chambre. Parce que nous avons reçu des choses à ce moment-là pour les porter et les donner à l'extérieur. Alors à ce moment-là, elle devient, après conseil auprès de Dieu, témoignage, et ne pas n'importe quel témoignage, puisqu'il nous est dit « conduisez-vous avec sagesse ». Il faut de la sagesse quand on est chrétien. Quand on est chrétien, on ne fait pas n'importe quoi, on ne dit pas n'importe quoi. On ne vit pas sa foi pour épater les autres, pour en mettre plein la vue aux autres en disant « regardez comme je suis spirituel ». Regardez ma dévotion. Jésus n'est pas tombé dans le panneau avec les pharisiens. Hein. Il leur a dit, allez, mes petits, hein, vous repasserez. Excusez-moi, hein, je suis un petit peu trivial, mais c'est comme ça ce qu'il leur a dit. Hein. Votre foi n'a aucune valeur. Conduisez-vous avec sagesse et le témoignage qui est la réponse à la prière qui se traduit par une vie équilibrée, mais aussi personnalisée puisqu'il nous est dit de répondre à chacun. C'est-à-dire que le témoignage n'est pas quelque chose de stéréotypé. On va dire la même chose à tout le monde en même temps. Non. Dieu m'enverra vers certains qui a tel besoin. Il m'enverra vers un autre qui a tel autre besoin. Ceci et cela. Et ça, c'est de la flexibilité. C'est cette intelligence que nous donne le Saint-Esprit pour nous faire tout à tous. Et de pas débiter notre connaissance de ceci et cela. Quelquefois, il y a des choses qui sont dites et qui ne devraient pas être dites. Et qui rebutent les gens. Vous savez, il faut être comme... Jésus nous l'enseigne, et comme il l'a enseigné pratiquement lorsqu'il a vu ce jeune homme riche, il nous est dit que il l'a regardé, vous savez dans Marc, il l'a regardé, il l'a aimé, et il lui a dit ensuite. Nous, nous faisons souvent le contraire, nous commençons à dire, et puis on regarde un petit peu les gens en disant « tiens, ils pensent pas comme moi ». Et puis s'il reste un petit peu d'amour au fond de notre cœur, on en donnera, mais c'est pas ça. Hein. Jésus a commencé à regarder cet homme, ensuite il l'a aimé en le regardant, il lui a dit « Maintenant, voilà mon ami, ce que j'ai pour toi, parce que la réponse que tu attends, bien c'est celle-ci. » Alors il faut répondre à chacun, et ça, notre attitude doit être une attitude personnalisée, qui veut dire que le Saint-Esprit qui envoie n'est pas, comme je le disais tout à l'heure, stéréotypé, il use d'une variété illimitée d'expressions selon la personnalité et l'originalité de chaque témoin. Et heureusement qu'on n'est pas pareil. Physiquement, on n'est pas pareil. Et puis dans nos personnalités, on n'est pas pareil. Je crois que vous avez déjà eu 8 pasteurs ici à Saint-Nazaire. Vous en avez vu, hein ? De toutes les manières. Ben... Vous pouvez dire, celui-ci était comme ça, celui-ci est comme ça. Et puis, bien heureusement qu'il y a une variété, qu'il y a une multiplicité. Et c'est ce qui fait la richesse de l'Église. Moi, j'ai ma personnalité, elle est ce qu'elle est, elle plaît ou elle plaît pas. Mais toujours est-il que j'estime que le Seigneur veut se servir aussi de moi comme il veut se servir de vous. Et je n'ai pas à me... parce que c'est pas dans ma personnalité, c'est pas dans mon genre, à me marginaliser ou à me mettre là dans un alignement. Non. Soyons ce que nous sommes. Vivons ce que nous avons à vivre. Gardons notre identité chacun. On a une identité unique et qui nous rassemble, c'est d'être né de nouveau. Mais chacun a sa façon d'être, sa façon de faire, sa façon de s'approcher des autres et de parler. Mais gardons notre identité, c'est ce qui fait justement la richesse. Et non pas comme quelquefois dans certains partis, partis religieux ou partis politiques, tout le monde est derrière le chef, avec la même, vous voyez, le même habit, la même casquette, la même veste. Non, c'est pas ça. C'est ce qui ennuie le monde d'ailleurs. Permettez-moi de le dire. Que les gens ne veulent pas... Qu'est-ce que vous voulez? Qui dit répondre, dit question. Or, qu'est-ce qui peut interpeller ceux du dehors? Je reprends la phrase. Quand il est dit répondre à chacun, ceux du dehors, sinon une vie différente. Nous avons besoin. Et notre vie, notre identité, nous la détenons de Jésus-Christ. Seigneur, tu m'as donné des noms, des dons. Donne-moi de pouvoir les comprendre, donne-moi de pouvoir les réaliser et ensuite de les restituer. Vous savez, c'est l'enrichissement de l'Église. Et moi, je bénis le Seigneur qu'on n'est pas tous pareils, qu'il y a certains frères et certaines sœurs qui ont des choses que je n'ai pas. Et ils vont faire des choses que je ne ferai pas. Alors, à vous de rentrer dans cette œuvre et de donner toute la mesure et que le Seigneur soit glorifié. On a quelque chose à apporter au monde que nous sommes des hommes différents, mais par la vie. Il ne s'agit pas ici de paroles, il ne s'agit pas tant de paroles que d'un vécu exemplaire. Et vous remarquerez avec moi, même le miracle n'est pas retenu comme moyen de conviction. Alors je voudrais déranger personne, mais on est dans un milieu où on croit au miracle, et moi je crois au miracle, je crois que Dieu est capable de faire des choses surnaturelles, extraordinaires. Mais je m'aperçois aussi que Dieu fait des miracles quand il a envie de les faire. Là où il y a de la foi, mais ce n'est pas un moyen que Paul retient pour convaincre les autres. Il faut prêcher la parole pour susciter de la foi, ensuite le miracle viendra, et non pas le contraire. C'est bien la sagesse dont il est question. L'authenticité qui provoque la réflexion, peut-être même l'interrogation chez les autres. Et nous avons eu parfois de merveilleux témoignages qui sont venus de l'extérieur, d'hommes qui n'étaient pas chrétiens et qui ont vu des chrétiens vivre au milieu de l'entreprise, dans toutes sortes d'engagements de la vie, et qui ont dit, mais on voit que cet homme, il n'a pas dit grand-chose, mais en tous les cas, il vit d'une manière différente. Et on voit que c'est véritablement un homme qui aime Jésus. C'est ça ce que nous avons besoin d'entendre dire du monde. C'est important ça. Notre conduite seule invitera naturellement au témoignage ou lui fermera la porte. Il y a eu parfois des couacs dans le témoignage. Quelquefois on se dit, mais c'est pas vrai. Pourquoi a-t-elle dit ou a-t-il dit cela? Et on se dit avec un peu de recul, mais ils ont fait fuir finalement les gens. Et vous savez, je crois que on doit vraiment approcher les gens et qu'ils sentent qu'on les aime. Parce que si on est là pour débiter notre récitation, ça, c'est pas ça. Mais que quand on voit des gens qui sont malheureux et qu'on prend le temps de les écouter, qu'on prend le temps de leur parler et ceci et cela et de leur démontrer qu'on les aime et qu'on veut les aider, alors à ce moment-là, il va y avoir une confiance qui va s'engager. Ça, c'est important. C'est selon Paul la meilleure prédication. C'est pour ça qu'il est dit « Conduisez-vous avec sagesse ». Ça inclut aussi la sainteté de notre vie, hein. J'en ai pas parlé, mais ça inclut. Cette sagesse est à la fois qualité de vie et qualité de relation avec autrui. C'est pourquoi Paul insiste sur le point suivant, où il est dit ceci, que votre parole soit assaisonnée, accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous promeniez avec tous les condiments de la cuisine. Assaisonné de sel, accompagné de grâce. C'est-à-dire que la douceur de la grâce ne doit pas affadir le piquant du sel, ni le piquant du sel emporter la douceur de la grâce. Équilibre. Mesdames, quand vous faites la cuisine, hein, vous faites bien attention aux proportions. Hein. Enfin, je rappelle ça, c'est pour ce midi. Hein. L'évangile témoigné frappe et il guérit. Il est à la fois justice et il est grâce. Il éprouve et il console. Il est fort et il est doux. Alors efforçons-nous par notre vie et nos paroles de traduire le plus fidèlement possible cette bonne nouvelle que Dieu nous a donnée. Et il nous donnera l'intelligence pour cela. je dis bien l'intelligence spirituelle, je précise. Cet équilibre qui est un savant dosage que seule la communion avec Dieu peut inculquer. Alors, pas de temps à perdre, puisque le texte nous dit, finalement, racheter le temps. Et c'est comme ça que nous allons racheter le temps. C'est pas de courir de droite et de gauche, de faire des émules, de faire des disciples de ceci et cela, de courir dans tous les sens. Mais racheter le temps, ça veut dire développez-vous dans votre communion avec le Seigneur, demandez-lui l'inspiration dont vous avez besoin, et c'est lui qui va vous enseigner, et ensuite il va vous envoyer. Et là, il y aura la bénédiction de Dieu. Très rapidement, la suite évoque la parole de Dieu et l'histoire d'homme, du verset 7 à 18. La parole de Dieu prend ici la forme d'une lettre de salutation, de recommandation, qui semble apparemment banale. Et c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Mais vous verrez que c'est pas aussi banal que ça quand il y a des noms qui arrivent comme ça, parce que chaque homme dont il est parlé a une histoire formidable. Et on voit que défilé à la lecture de ce texte, il n'y a pas moins de 10 noms différents auxquels l'apôtre adresse quelques mots personnels. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est la relation fraternelle, la relation amicale, spontanée que Paul entretient avec chacun de ses frères qui sont dans le service de l'œuvre de Dieu et qui forment une chaîne de solidarité. C'est pour ça que nous arrivons au point que j'avais évoqué tout à l'heure, l'unité. Nous voulons voir l'Église avancer dans le plan de Dieu. Mais cette Église ne pourra avancer que s'il y a l'unité entre nous. C'est important. Moi, je ne veux pas parler du contraire, c'est du négatif. Et ça ne m'intéresse pas. Mais il y a une chose qui m'intéresse, c'est l'unité. D'ailleurs, Jésus l'a bien spécifié, de que nous soyons unis les uns les autres, et dans l'amour. Pas une unité de façade, ou de circonstance, ou de convention, mais une unité réelle. Et les uns et les autres, nous avons tous un effort à faire. Et là, il y a finalement eh bien, cette solidarité qui existait dans cette église de Colosse. D'homme à homme, même d'église à église. Il est question d'échanges entre communautés de la lettre que Paul envoie, entre Éphèse, Troas, Thessalonique, Hiérapolis, Laodicée, Colosse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il n'y avait pas un clocher ici, un clocher là, et ils n'avaient rien à faire avec les uns avec les autres. Non, c'était l'église de Jésus-Christ. Il y a l'église locale et puis il y a l'église universelle aussi. Et ça, on ne peut pas séparer les uns et les autres. Et voilà un brassage, en quelque sorte, qui traduit une unité de foi dans l'amour de Dieu. Et c'est la plus belle démonstration et la preuve que l'Évangile rassemble les hommes, quand ils sentiront que nous nous aimons les uns les autres, que nous sommes unis les uns les autres. Suffit les discours, suffit les grands mots, suffit tout ce que l'on veut, bien entendre, les credos proclamés à droite et à gauche. C'est pas ça ce qui, moi, personnellement, m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir que dans une église, eh bien, nous marchons ensemble. Et nous suivons le Maître, nous suivons Jésus. Ça, c'est important. Quand on regarde par le détail, on constate que tous ces croyants au service de Dieu ne se seraient jamais rencontrés ni connus parce qu'ils étaient séparés par la langue. Ils étaient séparés par la race ou la classe sociale. Mais par contre, dans cette épître, leur nom figure en conclusion d'une lettre que Paul réunit sous la plume et avec de l'encre. Et c'est ça ce qui est extraordinaire. Est-ce que vous avez vu la conclusion de l'épître aux Romains? Vous avez vu la liste de tous les amis de Paul? Il avait des amis partout, Paul. Il s'était fait des amis partout, pour la bonne raison que tout le monde avait reconnu, non pas Paul en tant qu'homme, mais Paul, parce que c'était un homme qui aimait le Seigneur. Et quand on aime le Seigneur, ça attire les autres aussi. Ça attire les autres. Alors il les a réunis en conclusion de cette petite épître sous la plume. C'est ce que la société humaine ne parvient pas à faire. Alors on pourra faire des traités, on pourra faire des alliances, on pourra faire des contrats, on pourra faire des engagements, ceci et cela. Mais au bout d'un certain temps, parce que tout est marqué par l'intérêt dans ce monde. Mais nous, c'est pas l'intérêt qui nous réunit, frères et sœurs, on est d'accord ? C'est pas de ceci et cela, parce que c'est triste quand c'est l'intérêt qui réunit les chrétiens dans une église. Intérêt de ceci et cela. Non, ça doit être l'amour de l'autre. Et l'amour de notre Seigneur en priorité. Si nous aimons le Seigneur, nous allons aimer les autres. Ça, c'est clair. Vous savez, moi, je suis simple. Je réduis les choses à leur plus simple expression. Mais dans un monde si compliqué, je crois qu'il faut revenir peut-être à ça, me semble-t-il. Alors, C'est Paul qui scelle cette unité par ses paroles que vous connaissez et que je rappelle. « S'il y a quelque union d'esprit, rendez ma joie parfaite, écrira-t-il dans une autre lettre, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Alors, on a quelque chose de formidable devant nous. Et là, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que nous avons besoin de faire un effort. C'est vrai qu'on a des origines différentes, mais ce n'est pas parce qu'on est venu d'ici, d'ailleurs, que nous devons faire de la sélectivité. Ce ne serait pas bien. On doit pouvoir nous voir les uns les autres parce que nous sommes des enfants de Dieu et que le Seigneur nous a réunis dans une grande famille qui est l'Église. Ça, c'est la version spirituelle des choses, me semble-t-il. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et quand nous prions, puisque nous parlions de la prière tout à l'heure, nous pourrions dire, Seigneur, donne-moi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et vous allez voir que si on prie comme ça tous les jours, là, c'est là, il faut de la persévérance. Mais vous allez voir que le Seigneur, petit à petit, il va nous changer notre vision. Et nous allons regarder peut-être ce frère inconnu. Nous allons regarder avec un même œil. Peut-être nous avons entendu parler de lui, on nous a dit « il est ceci et cela ». Et c'est ce que je disais mercredi soir. Et puis après coup, je me suis aperçu que dans un contact personnel avec lui, soit il était tout ça, ou il était rien de cela. Et là, je me suis aperçu que finalement, il méritait d'être connu. Alors c'est pour ça qu'il faut aller les uns vers les autres. Comme disait Jésus, si vous aimez que ceux qui vous aiment, eh bien vous savez que ça risque de se restreindre. Mais nous avons un effort à aller vers les autres et de pouvoir apprendre à les connaître dans leur personnalité, dans leur identité, dans ce qu'ils sont. Et vous allez voir qu'on peut découvrir des trésors chez les autres. Si nous pensions que nous étions le seul et unique trésor de la terre, nous allons être déçus. Personne ne pense, j'espère. Levez-vous, que je vois la merveille. Alors, je reprends très brièvement parce qu'on arrive à la conclusion. Qui sont ces frères qui sont cités dans cette épître? On le verra par le détail la prochaine fois. Ce sont des Juifs. Il y a Aristarque de Thessalonique. Il y a Marc qui est cousin de Barnabas. Vous savez que Marc était cousin de Barnabas? Eh bien, comme ça, vous le savez. Il y en a un qui s'appelle Justus. C'est un inconnu. Il ne nous a rien dit de lui. Et puis, il y a des Grecs. Il y a Épaphras de Colosse. Il y a Luc. Vous savez, celui qui a écrit l'Évangile et puis le livre des Actes. Et il est médecin, on nous dit. Originaire de Troas, c'est un homme cultivé. Et puis, certains sont des hommes libres, d'autres ce sont des esclaves, comme Onésime. Mais peu importe, en Jésus, ils sont tous dans un même lien, un lien d'amour vivant. C'est pour ça que Paul en parle. Parce qu'ils sont vivants, par l'amour. Parce que l'amour restera toujours le signe de reconnaissance et de crédibilité du message que ces hommes d'hier ont prêché et que les hommes d'aujourd'hui nous avons à prêcher. Et si nous retenons les paroles de Jésus qui nous a laissées dans l'Évangile, il dira « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Si vous portez beaucoup de fruits, et vous savez que l'amour, dans la citation des fruits, c'est le premier de tous. L'amour. Alors, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est ainsi que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Je termine par une réflexion simple. Tout ça, c'est une affaire d'unité entre nous, frères et sœurs. Pour nous dire que se restreindre ou se retirer de l'Église, d'une manière ou d'une autre, je ne suis pas là sur le plan local. L'Église qui est l'œuvre de Dieu, qui est la famille dans laquelle le Seigneur nous a placés, induit un appauvrissement pour soi. Parce qu'en quittant ou en partant, je vais m'appauvrir moi-même. Ça, c'est clair. Il n'y a rien à faire. Parce que je ne peux pas me suffire à moi-même. J'ai besoin des autres. J'ai besoin des frères et des sœurs. Alors, à ce moment-là, si ma démarche est telle d'une réserve ou d'un, où je me retire, je me restreins, je vais nécessairement m'appauvrir. Et de plus, je serai par mon départ ou par, ma restriction, un manque ou une amputation pour l'ensemble, car nous sommes tous partis du même corps. Ça, c'est important, frères et sœurs. Et quand je retiens quelque chose en disant « Oh, je peux me suffire à moi-même, ça ne m'intéresse pas ou ça ne m'intéresse plus, il faut que je pense que je suis en train de vider mon capital vie. Parce que Dieu m'a appelé pour que je communique la vie aux autres. Et que je me renouvelle moi-même dans la vie. Alors à partir du moment où je commence à faire marche arrière, c'est ce qu'on appelle en conduite automobile rétrogradé, et on ne fonctionne jamais toujours continuellement en permanence en marchant arrière. Il faut toujours marcher en avant, hein. Alors à ce moment-là, eh bien, je dois me dire, je m'appauvris moi-même, mais j'appauvris aussi les autres. Quelle richesse que Dieu a donnée que nous soyons ensemble. À commencer par ce matin. Alors que Dieu nous bénisse. On verra la suite avec tous les autres qui arrivent là, tous ces noms qui nous parlent d'un témoignage extraordinaire de vie et d'attachement à la personne du Sauveur. On verra ça plus tard. Mais que Dieu nous bénisse ce matin et qu'il nous enrichisse d'être dans sa présence et dans la communion des uns et des autres. Amen. Nous allons prier quelques instants, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que, à travers cette simple petite lettre, à travers ces quelques versets, tu as bien voulu nous dire que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de marche arrière, ce n'est pas une vie de parking, ce n'est pas une vie de stationnement, mais c'est une vie, Seigneur, qui nous appelle à aller de l'avant, en ayant les yeux fixés sur Jésus, c'est-à-dire vers le ciel, sans oublier que nous avons aussi besoin d'avoir les yeux fixés sur la terre, où il y a des hommes semblables à nous, qui ont besoin, Seigneur, en effet, de ta grâce, et que nous pouvons leur communiquer, et pour d'autres qui ont besoin de ton salut, et nous avons une bonne nouvelle à leur donner. Alors, Seigneur, tu nous bénis, s'il te plaît. Bénis nos églises, s'il te plaît, Seigneur, ici et ailleurs. Accorde-nous ta grâce dans la communion fraternelle, s'il te plaît, Seigneur, scelle l'unité entre nous. Donne-nous, Seigneur, de vivre en paix, Seigneur, même si parfois il peut y avoir des divergences. Mais, Seigneur, donne-nous de garder l'équilibre, un équilibre doctrinal, un équilibre comportemental, un équilibre qui puisse, eh bien là, mettre à disposition, Seigneur, de tous ceux, de toutes celles qui nous voient vivre, eh bien là, les parfums de l'amour qui exhalent du nom de Jésus-Christ et de son enseignement. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Bénis ton peuple. Rassemble nos cœurs. Donne-nous d'être forts ensemble. Donne-nous d'avoir la même vision, Seigneur, celle où Jésus est glorifié, où Jésus sera glorifié. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci, Seigneur Jésus. Amen.